L'éditeur Capcom crée l'événement en nous proposant Aladdin sur Super NES. On retrouve dans cette version tous les éléments qui ont fait le succès des grands jeux de plateforme Capcom. Et certains passages rappelleront aux connaisseurs des hits comme Mickey ou la série des Megaman. Aladdin, qui a un air de Prince of Persia, bénéficie d'une grande richesse de mouvements. Il court, il saute, il lance des pommes. Il fait des pirouettes en envoyant valdinguer ses adversaires et surtout peut s'accrocher aux plateformes ou se balancer comme un cascadeur. Si le jeu se finit un peu trop rapidement pour un joueur aguerri, il devrait pourtant satisfaire tous ceux qui ont adoré Aladdin, le film. Les niveaux sont variés, les décors souvent magnifiques, l'humour et la bonne humeur omniprésents. Regardez ici, les plateformes changent de tête quand on les foule. Ou le génie, qui crée des nuages et des cartes pour que Aladdin puisse s'envoler dans les airs. Bref, voilà un jeu de qualité et ne trahissons pas le dessin animé. Du coup, et malgré une bande sonore bâclée et une durée de vie limitée, Aladdin sur Super NES récolte la très bonne note de 89%.
Adapté du célèbre beat'em up de la Neo Geo, Art of Fighting sur Super NES en est une copie conforme. Seule différence, les graphismes et les musiques sont de moins bonne qualité, les combats moins ardents et le plaisir de jeu diminué. À part ça, tout est ok. Mais on ne lui accorde pas plus de 50%. Attendons plutôt Fatal Fury 2, qui doit également être converti sur Super NES. Il semble beaucoup plus réussi.
Au firmament des super-héros, il est une équipe dont la bravoure n'est plus approuvée. Save the city. Leur nom, les X-Men. Ils se sont envolés des cases de leur bande dessinée pour atterrir dans un jeu d'arcade tonitruant. Leur mission, sauver la ville du joug du terrible Magneto, le maître du magnétisme. X-Men en arcade, contrairement au jeu sur console, est un beat'em up furieux. Vous pouvez y casser du super-vilain à foison sur un fond de musique débridée. Excellent.
Bien connu des possesseurs de la NES, Little Nemo était à l'origine une BD américaine très connue du début du siècle. Cette BD avait déjà eu les honneurs du jeu vidéo en tant qu'adaptation sur bande d'arcade. Cette fois, Nemo est réveillé par un gentil ours qui lui demande de devenir le compagnon de jeu d'une belle princesse. Bien sûr, tout se passe mal. Nemo réveille par inadvertance les monstres du coin et qui plus est, la princesse est enlevée. Notre ami part donc à la rescousse de sa dulcinée, traversant pour cela des endroits aussi hétéroclites que sa salle des jouets, une mer en furie ou une forêt peu accueillante. Tout cela, allié à des graphismes magnifiques et à une animation dantesque, donne un jeu mignon tout plein qui a eu le mérite de plaire aussi bien aux jeunes qu'aux autres.
Lorsque vous arrêtez de jouer, eh bien c'est tout simple, ils vivent leur vie. Regardez Bubsy. Lorsque vous le laissez tomber, il tape du pied, vous appelle et va même jusqu'à cogner l'écran de votre téléviseur pour vous rappeler à l'ordre. Incroyable, non? Qui a dit que les héros de jeu n'avaient aucune personnalité? Regardez Rocket Knight. Après avoir respiré un grand coup, il sourit et vous fait les yeux doux. Buster, notre lapin préféré, adore danser dans la version Super NES des Tiny Toons. Mais sur Mega Drive, il va s'endormir, vexé que vous l'ayez laissé tomber. Et réveille-toi, Buster! Remarquez, dans d'autres jeux, les personnages sont contents que vous arrêtiez de jouer. Dans Global Gladiator, les héros en profitent pour faire des boules et des bulles avec leur chewing-gum avant de repartir avec vous combattre la pollution. C'est comme Pugsley dans Addams Family 2. Il mange, il fait des grimaces. Quel salmum! Mais le plus beau des mouvements d'un héros lorsque vous arrêtez de jouer, c'est celui d'Aladdin sur Mega Drive. Je vous laisse admirer.
Et Aladdin, il est plus classe que Chuck Rock, qui tire la langue, fait des grimaces et se gratte les fesses. Bon, on se quitte avec Monsieur Sonic, Jurassic Park, Bart Simpson et bien sûr Cool Spot, qui lui fait du yo-yo, nettoie ses lunettes, fait des bulles, bat la mesure. Il est Cool Spot. Allez, à plus.
Faire un choix dans les modèles les plus répandus. Tout d'abord, dans le clan des 16 bits, nous trouvons la Mega Drive et son alter ego, le Mega CD. Il faut savoir que la Mega Drive n'est qu'une version relookée de l'ancien modèle et qu'aucune modification technique n'a été apportée. Étant la première sortie, elle dispose d'un parc de jeux assez important, même si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Tendance qui s'inverse avec des jeux tels que Aladdin ou Rocket Knight. Quant au Mega CD, qui n'a pas tenu toutes ses promesses, on peut quand même trouver des perles telles que Thunderhawk. Concurrente directe de la Mega Drive, la Super NES plus récente dispose de qualités techniques supérieures. Quant à sa Logitech, elle est très fournie elle aussi. Tous les styles de jeu y sont représentés, mais généralement plus coûteux. La baston avec le mythique Street Fighter 2 et son extension survitaminée Street Fighter 2 Turbo. La stratégie et la réflexion avec SimCity, le jeu où vous devez développer une ville dont vous êtes le maire. Et enfin, les plateformes avec par exemple Mario All-Stars, la compilation des jeux mettant en scène le plus célèbre des plombiers. Passons maintenant à la Rolls des consoles, j'ai nommé la Neo Geo. Plus grosse, plus puissante, mais surtout beaucoup plus chère. C'est la machine de la démesure. Sauf au niveau du nombre de jeux disponibles. Avec ses sons et ses graphismes tonitruants, elle a tendance à s'orienter plus particulièrement sur les jeux de baston, tels que World Heroes 2 ou Art of Fighting, ou encore la série des Fatal Fury, qui arrive presque au niveau de Street Fighter 2.
Fatal Fury Special.
Voyons maintenant les consoles NEC, beaucoup moins répandues sur le marché français et dont les jeux sont disponibles en import à un prix généralement supérieur à la moyenne. Notons que ceux-ci existent en carte mémoire ou en CD pour la Duo, les cartes mémoire étant compatibles avec la GT, portable de la gamme. Issue d'une technologie bâtarde entre 8 et 16 bits, c'est une excellente machine avec des jeux de très bonne facture, malheureusement très mal distribués. Passons sur les consoles 8 bits, NES et Master System, amenées à disparaître à plus ou moins long terme, et voyons plutôt ce que nous offre le marché des consoles portables. Tout d'abord, la Game Boy, qui est la moins avancée technologiquement, mais la plus créative au niveau des jeux. En effet, elle s'offre par exemple le luxe de nous offrir certains des jeux d'aventure les plus fabuleux, tels que Zelda ou encore Mystic Quest. Comparée à sa concurrente, la Game Gear, elle fait pourtant bien démunie. Avec son écran couleur et éclairé, la Game Gear fait figure de NEC plus ultra. Malheureusement, les jeux ne sont pas toujours à la hauteur, même si des surprises comme la série des Mickey ou Otifants nous parviennent parfois. Vous avez pris des notes, alors maintenant, c'est à vous de jouer.
Et en 10e position de ce top réalisé par les journalistes de Télévisator, on retrouve Fatal Fury Special sur Neo Geo. Testé par Chris au mois d'octobre, on se rappelle tous que ce beat'em up lui avait mis les larmes aux yeux, tant sa qualité technique et sa jouabilité étaient exceptionnelles. Remets-toi Chris, on n'en est pas encore à Street Fighter.
La neuvième position est occupée par les Tortues Ninja Tournament Fighters sur Super NES. Il s'agit, là encore, d'un beat'em up qui reprend fidèlement l'univers des Tortues Ninja. Ce jeu était tellement impressionnant que Ugly était devenu marteau et n'avait pas hésité à le comparer à Street Fighter 2.
En huitième position, Jungle Strike sur Mega Drive. Quand Freddy, notre réalisateur, découvrit ce jeu, il fut tellement marqué qu'il faillit se raser la moustache par accident. Non, Freddy, tire pas sur la Maison Blanche!
On passe directement à la cinquième position car trois jeux sont à égalité. Voici Mystic Quest sur Game Boy. Lors de son test, Jean-Phi, alias Jean-Pierre le Méchant, s'y était plongé à fond. Après plusieurs semaines d'entraînement, il arrive à le terminer en 15 minutes avec les mains attachées dans le dos. Bravo Jean-Phi.
Également cinquième, Flashback sur Mega Drive, créé par un concepteur français. Ugly l'avait testé lors de la toute première émission de Télévisateur le 17 mars 1993. Et depuis, la cartouche n'est pas sortie de sa Mega Drive.
Toujours cinquième et ex-aequo, Aladdin sur Mega Drive. Rappelez-vous que lors de l'émission spéciale, Cyril jouait le rôle d'Aladdin. Marqué durement par ce rôle qui devait être tenu initialement par Gérard Depardieu, il n'arrête plus, depuis, de frotter sa lampe de bureau avec un turban FBI.
À la quatrième place, nous trouvons SimCity. Pour ce jeu de construction, ne faites pas comme Mac le Fou, qui, depuis, passe son temps enduit de béton.
En troisième position, voici le grand Street Fighter 2 Turbo sur Super NES. Lorsque Christophe le découvrit, il changea de nom pour s'appeler Chris Fighter 2. Petit et chétif, Chris, le petit scarabée de l'émission, est maintenant si fort à ce jeu qu'il a réussi à obtenir sa ceinture noire par correspondance. Incroyable, extraordinaire, dément.
Merci Ugly. Le deuxième n'est autre que Zelda Game Boy.
Et qu'est-ce que c'est beau, hein?
Comme vous l'entendez, Ugly n'en est toujours pas revenu et s'habille en collant avec un chapeau sur la tête pour y jouer sur Game Boy.
Ah, ils le sont.
D'après les dernières nouvelles, il faudrait un mois minimum pour le finir. Le jeu, pas Ugly.
Premier du top, Super Bomberman sur Super NES se retrouve à une place bien méritée. Jamais les petits bonhommes poseurs de bombes n'ont eu autant de succès. Wonder, notre Mister Arcade national, en a laissé tomber les manettes de ses machines préférées pour s'emparer d'un paddle SNES et se faire exploser. Plus qu'un hit, ce jeu est une légende. Il ne faut absolument pas le rater.
Et pour finir, voici les previews, un petit aperçu de ce qui vous attend sur vos consoles préférées dans les semaines ou les mois à venir.
Et voici les previews avec un sublime jeu d'arcade réflexion Solstice 2 sur Super NES. Également appelé Equinox, il tiendra en haleine les amateurs inconditionnels de prise de tête. À la vue des premières images, une chose est sûre, il a l'air grandiose. Utilisant une vue en 3D isométrique, Equinox pratique aussi avec une classe toute particulière l'effet de rotation. Reste à voir l'intérêt du jeu, mais il semble d'ores et déjà à la hauteur. Dans First Samurai, vous incarnez un jeune guerrier japonais parti chasser un démon à travers différentes époques. Mélange de beat'em up et de plateforme, ce jeu possède un indéniable charme. Il se révèle plutôt rigolo à jouer. Malheureusement, on se rend compte après quelques minutes que la réalisation de First Samurai n'est pas toujours à la hauteur de ses objectifs. Et puis l'intérêt de ce jeu n'est pas encore prouvé. Quoi qu'il en soit, test complet dans une prochaine émission. Ça vous dirait de jouer au basket baston, genre Basket Fighter 2? Eh bien, vous en avez la possibilité avec NBA Jam sur Super NES. Ce jeu d'une jouabilité démoniaque sortira au mois de janvier. Il recèle un nombre de coups incroyables que je vous laisse admirer. À bientôt.
Une shoot'em up aux couleurs acidulées, Pop and Twinbee était attendu depuis un beau moment dans notre beau pays. Grandiose béatitude et folle exaltation, le voici enfin. Première grande qualité, vous pouvez jouer à deux, et en même temps. un avantage non négligeable. Le jeu lui-même tient du jeu de tir des plus classiques. Vous traversez différents niveaux, combattez des boss, tout est normal. C'est au niveau de la réalisation que Pop & Twinbee se démarque de la plupart des jeux du même type. Vous aurez rarement eu l'occasion d'admirer des graphismes aux couleurs aussi chatoyantes, d'affronter des ennemis aussi délirants et originaux, d'écouter des musiques aussi entraînantes. En fait, le seul défaut que l'on puisse trouver à ce jeu, c'est sa facilité. Un joueur, même moyen, peut le terminer sans problème. Mais puisque c'est là l'unique déception que nous apporte Pop & Twinbee, nous pouvons tout de même lui accorder la note télévisateur de 90%.
Le seul jeu qui soit actuellement capable de concurrencer le grand Street Fighter 2. Voici Teenage Mutant Ninja Turtles The Tournament Fighter sur Super NES. En résumé, cela se présente comme Street Fighter 2, si ce n'est que l'environnement et tous les personnages proviennent de l'univers des Tortues Ninja. Mais bien sûr, sa principale originalité reste les coups, qui sont différents pour chaque personnage.
Round 1, fight!
Les coups sont tout à fait nouveaux. Les Tortues Ninja utilisent leurs armes habituelles, c'est-à-dire des bâtons, le nunchaku et autres sabres. Les graphismes et les décors sont excellents et la jouabilité est proche de celle de Street Fighter, avec en plus un coup spécial très puissant que vous ne pourrez utiliser comme dans Fatal Fury 2 au dernier moment si vous êtes sur le point de perdre. Je vous laisse les regarder. Jouable, très réussi, très dur en mode un joueur et complet au niveau des options, Tortue Fighter mérite bien la note télévisateur de 91%.
En avant pour une première série de boss de Rock'n'Knight Adventure, l'un des meilleurs jeux d'action de la Mega Drive. Car des boss dans Rock'n'Knight, il y en a, alors on y va. Au monde 1, l'insecte lance des boules épineuses. Évitez-les et détruisez la mine rouge pour vous libérer le chemin. Attendez ensuite le retour de l'insecte, mais attention à sa queue. Le monde 2 commence carrément par un boss. Pas mal, non? Regardez, c'est lui, et il est pas beau. Restez bien au centre, dans l'eau, et passez entre ses griffes pour lui chatouiller les narines. Pour le serpent des mers, accrochez-vous à une branche et cognez le plus rapidement possible. N'ayez pas peur de perdre quelques points de vie, il y a des pommes juste après. Et les pommes redonnent de l'énergie à notre ami Rocket Knight. On passe au niveau de la mine. Face au premier train, mettez-vous le plus à droite possible et défendez-vous. Ce boss ne devrait pas faire long feu. Mais ça n'est pas fini. Car arrive maintenant par la droite un autre train. Cette fois, celui-ci lance des boules meurtrières. Zigzaguez pour les éviter et frappez en reculant régulièrement. Voilà une astuce pour la forêt de pique du niveau suivant. Ici même, regardez. À cet endroit, laissez-vous happer et utilisez le turbo, il fallait le savoir. Pour le crabe géant, c'est facile. Commencez par dégommer ses pinces en restant bien à droite et en faisant attention au courant, puis visez les yeux. Bravo, c'est gagné et à très bientôt dans Télévisateur 2 pour d'autres boss de Rock'n'Knight Adventure.